Hello, friend.
Il t'a déjà baisé ici sur le canapé?
Non, pas encore.
Jan, director inside sales. They call me Jan the man.
Oh.
When you say people, you mean companies, right?
Actually, no, sorry. Jan the man. By people, I do mean people, humans, consumers.
Cocksucker!
Yeah, glad to tell you that fucking word.
I'll tell you what I think. Wanna know what I think, Fox?
I'm hanging on it.
Are you? I think you're upset about the shushing. I think you were pissed off about the Hitler mustache on your father-in-law. I think you shook up that can of soda on purpose. And I think you're clomping now, and you've made up some bullshit excuse about your feet, and it's all under the guise of Parkinson's. That's what I think.
Rouge, c'est non. Double rouge, c'est double non.
The situation's a lot more nuanced than that.
You think I'm really boring, don't you? Well, get used to it, because now that your father is dead, you can forget about ever going to law school. It's just you and dead people and freaks like me for the rest of your life.
You know, everyone says it's not supposed to make sense, like that's the whole point, dude. And I'm just saying, you know, that's like an excuse for lazy storytelling. Just don't sell me shite and tell me it's gold. All right, I might be stoned, but I'm not high. You know what I mean?
We are God. We're thoughts. We are as
Are you an idiot?
No, sir, I'm a dreamer.
Série Folie, épisode 18 de la saison 4. Bien le bonsoir. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
C'est reparti pour une nouvelle aventure qui vous parle série télé. Nouvel épisode de Série Folie avec l'habitude, hein, vous le savez, en début d'émission, on revoit les nouveautés. Trois nouveautés revues par Aurore ces derniers jours.
Oui, dernier jour, et même un petit peu, on va remonter un tout petit peu plus loin dans le temps, là, puisque je vais commencer avec une série qui était quand même sortie avant la nouvelle année, tu vois,
c'est
déjà
loin.
Une vieille série.
C'est vieux, c'est vraiment...
Ça vaut même plus la peine d'en parler.
Non.
La durée de vie d'une série de nos jours, c'est quoi? Une semaine, le temps de se la binger, et puis on passe à autre chose.
T'aimes faire les brocantes, toi?
apparemment j'aime faire les brocantes, ce sera le cas en tout cas avec la première série ici qui nous occupe, qui est une série brésilienne, figure-toi, c'est la première fois que je regardais une série brésilienne, je sais pas toi.
Oui, c'était la première fois, et comme en plus on se force à la regarder en VO.
On se force pas, moi je trouve que c'est un plaisir, franchement, cette langue...
C'était sur Netflix, on est d'accord,
oui.
Et à chaque fois elle arrivait en anglais ou en français, je sais plus, et tu switchais tout le temps, et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et oui, non, c'est des paysans.
Ah mais oui, je trouve que ça fait partie de l'expérience, il faut la vivre en version originale, donc en portugache.
J'ai un peu peur malgré tout. Tu la mets en premier, quoi. On commence un classement par le bas, les moins bonnes.
Non, c'est vrai que pour une fois, non.
Ça va être un peu aléatoire.
Vu que tu m'avais lancé sur l'idée de nouveauté. Bon, on va quand même donner son nom. Hein. On va le dire en français parce que je ne m'aventurerai pas sur les. L'expression en portugais, mais donc il s'agit de 3%. C'est comme ça que ça s'appelle et c'est comme ça qu'on peut la retrouver sur Netflix en tout cas. Ouais, et ça nous raconte quoi?
J'ai très envie d'essayer de le dire en portugais, mais je ne sais pas comment ça se dit.
Aïe. Il s'agit d'une série un peu futuriste, hein, une sorte de dystopie ou qui... Que sais-je, peut-être pour certains, pourrait-il s'agir d'une utopie. En tout cas, on est dans un univers dans lequel nous avons la population est partagée en deux parties. 3% de la population vit sur ce qu'ils appellent une des rives du pays, j'imagine. Et puis l'autre, tout le reste de la population, les 97 autres pourcents, se retrouvent sur l'autre rive qui est composée principalement de... C'est pas vraiment des bidonvilles parce que malgré tout c'est construit en dur, mais ce sont des quartiers très très pauvres, abîmés, en ruine pour une partie, etc. Donc on est vraiment dans la misère, quoi. Mmh. Et donc, évidemment, toute l'idée, c'est que ce serait tellement bien de faire partie des 3% qui ont la chance de vivre autrement, de vivre mieux. Et ça tombe bien parce qu'il existe tout un système qui permet justement de sélectionner les 3% qui auront la chance de vivre de ce côté-là de la barrière, du bon côté de la barrière, comme on dit. Et ce système arrive à une fois qu'on atteint notre 20e année. On passe une série de tests. Alors, il y a des tests psychologiques, des tests qui se passent en groupe où il faut tous collaborer. Il y en a d'autres, au contraire, où on est mis en compétition les uns contre les autres, etc. Enfin, bref, on a toute une batterie de tests à passer. Et si on arrive jusqu'au bout, eh bien, on fait partie des 3% de l'élite qui vont pouvoir se diriger vers la rive où tout est beau, où tout est riche, propre, calme, etc. quoi.
Oui.
Voilà. Donc alors, ça, c'est le principe de base. Et
où est-ce que ça se complique? Parce que je sens que c'est pas si simple que ça. Non? On voit vraiment ce processus-là durant tous les épisodes?
Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de suivre on pourrait appeler ça une promotion quelque part, hein. Un groupe qui de vingtenaires qui arrivent pour leur sélection, et pendant tous les épisodes on va suivre le processus de sélection. Donc à chaque fois on va avoir l'occasion de découvrir les épreuves qu'ils auront à passer, qui sont toutes assez inventives. Donc pour ça il y a une grande diversité, c'est assez chouette à regarder. L'autre intérêt aussi, c'est que chaque épisode va être concentré davantage sur l'histoire personnelle d'un des personnages de la série. Et donc, ça permet aussi d'avoir des flashbacks sur ce qu'il peut se passer du côté des pauvres, ce vers quoi ils retourneront s'ils échouent, quoi.
Ok. Et les tests paraissent valides. Enfin, c'est intéressant.
Mais
l'analyse qui en est faite, au final, quand on réussit, quand on rate.
Oui, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que justement, c'est une série qui va nous montrer toute l'absurdité de la méritocratie, en fait. Toute l'idée, c'est là.
Ah.
Ça va être de nous montrer à quel point. Et l'idée selon laquelle en faisant des tests on pourrait déterminer quelles sont les personnes qui sont les plus méritantes et qui pourraient faire partie de l'élite tandis que les autres n'y auraient pas accès parce qu'elles ne le mériteraient pas, on constate à quel point c'est absurde, parce qu'évidemment on va avoir au sein de le groupe principal qu'on va avoir l'occasion de suivre, on va voir qu'il y a des tricheries à certains moments, il y a certaines choses qui se passent et qui ne devraient pas se passer normalement dans un processus normal. Donc déjà, c'est injuste. Mais en plus, on peut aussi remettre en cause le processus lui-même en se disant que est-ce que vraiment ce qu'il ne faudrait pas remettre en question au départ, c'est déjà cette distinction de la société en deux catégories, au nom de quoi? Enfin voilà. Je dois t'avouer que je n'ai pas encore vu la fin. Hein. J'ai vu que les 5 premiers épisodes pour le moment. Donc je suis assez impatiente de voir la suite. Je ne sais pas où va mener la saison, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. J'ai adoré cette série jusqu'à présent.
Donc ça s'appelle 3%.
Ça s'appelle 3% exactement. Et on peut y avoir accès sur Netflix. Donc autant en profiter. Voilà.
Bien. Deuxième série à revoir.
Deuxième série. Cette fois-ci, il s'agit d'une série canadienne. Tu vois qu'on essaie de diversifier. Hein. Il s'agit d'une série canadienne qui, en plus, va se passer pas auprès d'une population canadienne lambda. Hein. Non, on va se concentrer davantage sur un groupe spécifique qui sont les Mennonites, hein, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, quelque chose dans le genre en tout cas. Donc c'est un groupe qui peut faire penser par exemple au mode de fonctionnement des Quakers en Amérique, si tu vois de quoi je veux parler.
Mm-hmm.
Donc c'est un groupe assez religieux, qui fonctionne autour d'une foi assez, assez profonde et qui va rejeter toute technologie pour vivre comme on le vivait à l'époque où on n'avait pas encore l'électricité, les automobiles, etc., etc. Et le problème de ce groupe-là, c'est que ils sont plus ou moins contraints, apparemment, de collaborer avec un trafiquant de drogue qui fait passer de l'héroïne au Canada. Et donc, on a un nouveau chef donc qui devient le nouveau guide spirituel du groupe qui va être confronté à cette nouvelle responsabilité là et on va essayer de voir comment il va se dépatouiller de tout ça parce qu'évidemment il est un petit peu obligé. S'il le fait pas, on tue toute sa famille, mais en même temps s'il le fait, il risque quand même d'avoir assez rapidement la police aux fesses et donc c'est pas non plus une bonne chose pour lui. Donc voilà, il est un peu pris entre deux feux, le pauvre monsieur, et j'ai bien aimé aussi cette série là figure-toi. J'ai trouvé les personnages qui nous étaient présentés simples et crédibles. On a envie de les suivre parce que simplement, on peut très bien s'identifier à ce mode de fonctionnement où il n'y a pas de grand calcul derrière tout ça. Il y a juste une situation inextricable dans laquelle il va se retrouver et on sent qu'il est sincère dans son engagement vis-à-vis de sa communauté, vis-à-vis de sa religion, etc. Mais en même temps, on sent qu'il y a des obligations qui vont le forcer à aller à l'encontre de tout ça. Et j'ai trouvé ça assez, assez intéressant et assez touchant. Donc voilà, et ça permet aussi de voir une confrontation parce que malgré tout, ils ne sont pas totalement isolés. Ils ont quand même des contacts fréquents avec les gens de la ville, entre guillemets, hein, et notamment avec un policier particulièrement qui s'intéresse de près à ce groupe-là. Et donc, c'est l'occasion aussi de voir quelles sont les relations qui peuvent se nouer entre la société et puis les groupes qui essaient de vivre un petit peu à part. C'est plutôt bien vu.
T'en es où dans cette série-là?
Pour le moment, j'en ai vu seulement 3 ou 4 épisodes, donc je suis vraiment pas très loin.
Ok, à suivre. Ça s'appelle, on le rappelle.
Ça s'appelle. Je suis même pas sûr qu'on l'ait déjà dit.
Ah, voilà.
Ça s'appelle Pure.
Là, on l'avait pas dit.
Donc Pure.
Je m'en serais souvenu.
Voilà.
Le nom d'une radio concurrente.
Oula.
Je m'en serais souvenu.
Oui, non, on
ne le répétera pas. T'imagines même pas,
alors.
Quoi.
On ne le répétera pas. Donc, voilà. Troisième et dernière série, cette fois-ci.
Oui, alors quoi? Toujours alors, aussi motivé ou un peu mitigé, le statut?
Mitigé, cette fois-ci. On retourne chez Netflix, et cette fois-ci plus pour une production originale Netflix, avec une comédie qui s'appelle One Day at a Time et qui va qui est sous un format sitcom assez traditionnel. Je crois qu'il y a des rires enregistrés, ça fait fort plateau de théâtre, voilà. Alors on
pas convaincu pourquoi.
Pas convaincu pourquoi. D'un côté, je vais spécifier une chose, c'est que nous avons dans cette série-là la volonté apparemment de reprendre un concept ayant déjà existé, puisqu'il y a déjà eu une série s'appelant One Day at a Time dans les années 70,
mm-hmm.
que je n'ai absolument pas vue, et vis-à-vis duquel je ne peux donc pas comparer cette nouvelle série en me disant « Ah oui, en effet, il y a une tentative de faire une sorte de rapprochement, un nouvel habillage, une nouvelle manière de présenter les choses, le propos ou quoi que ce soit. » Je n'en sais rien, je n'ai absolument pas vu la série d'origine. Donc, voilà. À partir de là, moi, qu'est-ce que j'en vois ? Et j'imagine quand même que ça doit être le cas de la plupart des gens qui découvrent la série aujourd'hui. Mais le côté très, très cheap, malgré tout, de la mise en scène, de l'humour, etc., qui est un peu rebutant.
Un humour rebutant.
Oui, parce que les rires enregistrés, parce que on est et ça, je vais le nuancer tout de suite, mais ici on est dans une famille cubaine, je crois, d'origine cubaine qui vit aux États-Unis, et donc il y a beaucoup, notamment de pas vraiment de chant ou de danse, mais enfin on les voit oui, on les voit pendant un petit temps essayer de danser un petit peu, enfin ils font mine que ils sont un petit peu latinos, quoi, et je sais pas, j'adhère pas tellement à ça, ou ça
paraît le trait très... un peu forcé peut-être.
Oui, c'est peut-être ça. C'est vrai que ça, personnellement, ça ne me touche pas. Alors, c'est peut-être simplement parce que je ne suis pas de cette culture-là, hein, mais voilà, ça me laisse un petit peu de marbre. Ceci dit, malgré tout, on va nuancer ce que je viens de dire en disant mais probablement qu'un des intérêts de la série, justement, par rapport à l'original que je ne peux qu'imaginer, mais c'est le fait qu'ici, on suit justement une famille latino aux États-Unis avec comme chef de famille une mère, et non pas un père, comme on pourrait le penser, qui est infirmière et qui a été notamment en Afghanistan, je crois, donc qui a quand même servi son pays, hein, on pourrait dire, dont le mari continue à être soldat, et donc il n'est pas là pour le moment, on ne sait pas s'il reviendra ou pas, mais donc voilà. C'est suivre toutes les problématiques que peut vivre cette famille-là. Ces problématiques semblent très... Le trait est un peu forcé, on apporte les problématiques de manière un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais malgré tout, ça a l'intérêt d'apporter les problématiques qui... bien souvent ne sont pas traités du tout. Notamment, il y a un épisode dans lequel elle se rend compte qu'un de ses collègues masculins, qui est un nouveau collègue qui a beaucoup moins d'expérience qu'elle et qui, en plus, apparemment est un petit peu un crétin, va gagne plus qu'elle. Et donc, ça permet... Il y a quand même, quasiment à chaque épisode, la volonté de mettre en avant une problématique féministe. C'est apporté un petit peu avec des gros sabots, mais ça a l'intérêt d'être mis sur la table quand même. Donc, voilà, je suis mitigée vis-à-vis de cette série-là. C'est pas un plaisir absolu de la regarder, mais en même temps, j'estime que c'est pas sans intérêt non plus. Donc, voilà.
À suivre.
Voilà.
Petit à petit. Merci Aurore. Pause musicale, si tu le veux bien.
Je le veux bien. On va s'écouter I Don't Love Anyone de Belle and Sebastian, entendu dans Girls. Still a chance to take a hike.
Série Folie, c'est reparti pour un nouveau sujet abordé ce soir avec Aurore. Quel est-il là ?
Eh bien, on va parler des séries. On va se demander s'il y a certaines séries qui ont une voix. C'est une expression qu'on entend parfois, donc on va essayer de voir justement si ça a un sens ou pas de parler de ça.
Mais je comprends pas déjà. Ça veut dire qu'elles ont un propos ou qu'elles chantent dans notre tête ?
Non, elles chantent pas dans notre tête, ça non. Mais justement, on va essayer de préciser ce que ça veut dire si tu
Qu'est-ce
veux bien.
Qu'est-ce donc une série à voix ?
Mais avant ça, j'aimerais en revenir à l'origine du raisonnement, si tu veux bien.
Oui.
On va procéder comme d'habitude, de manière un petit peu systématique. Donc, on commence par le commencement, avec une idée qui m'est venue simplement en regardant une vidéo sur l'art, dans laquelle j'ai entendu le principe selon lequel, en fait, l'art, à partir du moment où il s'est rendu dépendant, enfin il a été par la force des choses dépendant du mécénat pour pouvoir continuer à survivre, a dû se plier à la pensée dominante des personnes qu'il payait, donc des grands bourgeois qui payaient les artistes pour les peindre ou que sais-je d'autre. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, s'il se plie à la culture de cette classe sociale-là, il y a eu une tentation d'éliminer de plus en plus la place du travail artistique pour essayer justement de totalement le faire disparaître et qu'il y ait l'illusion que l'œuvre existe en elle-même sans même qu'il y ait eu un artiste à son origine. Jusqu'ici, tu vois ce que je veux dire.
Voir, oui, okay.
Donc voilà, traditionnellement, on peut se dire que l'art a essayé à une époque en tout cas, de se rendre invisible dans le but d'avoir une illusion parfaite de réalité. Hein, comme si, par exemple, les peintures n'étaient que des photographies à l'époque où la photographie n'existait pas encore. Donc, tout ça pour se mettre, ça devrait permettre, dans le cas, si on parle de série cette fois-ci, de se mettre entièrement au service du récit qu'on est en train de mettre en scène, ce qui n'est pas forcément inintéressant en soi, parce que même si on peut se dire qu'il y a une prétention de réalité qui là peut être dangereuse, parce que ça peut essayer de nous mettre en tête des choses qui ont l'illusion d'être vraies, alors que c'est toujours un point de vue particulier, mais malgré tout, il y a une certaine humilité dans cet exercice-là de l'artiste qui se retire totalement de son œuvre. Il y a aussi, on peut aussi le voir comme ça, comme une forme d'humilité. Mais évidemment, avec le temps, le processus a fait marche arrière, et si on regarde du côté des séries, on peut constater que de fait, il y a un renversement total de ces valeurs-là, qui, pourrait-on dire, correspond aussi à un renversement des valeurs dominantes de notre époque, dans laquelle on n'a plus le travail qui serait vulgaire et qu'il faudrait cacher, contre, au contraire, une espèce de facilité, de pureté d'un truc qui apparaîtrait comme ça sans avoir jamais été fait. On n'a plus cette opposition-là, mais par contre, on va avoir une opposition entre la naïveté, l'ignorance d'une populace ignare qui ne sait pas vraiment repérer le travail qui est fait derrière une œuvre par rapport à la culture d'une élite qui a été éduquée à repérer toutes les astuces, notamment dans les techniques de mise en scène, dans les tours de force scénaristiques ou que sais-je encore, tu vois. Mmh. Donc on aurait vraiment un renversement à ce niveau-là du rapport à l'art qui va s'observer de deux manières différentes. D'un côté, au niveau de la technique, on constate quand même que de plus en plus, on a dans les séries la volonté de certains metteurs en scène de faire des véritables prouesses techniques, hein, des plans particulièrement magnifiques, des scènes en plan séquence ou que sais-je encore, qui coupent le souffle à tout le monde et surtout à ceux qui savent à quel point ça doit être difficile de préparer une telle un tel film, quoi, enfin une telle
prise de vue,
une telle prise de vue, exactement. Donc ça c'est une chose, et évidemment plus on est connaisseur de la manière dont on va prendre ses vues, et plus on est impressionné, et donc plus on va s'extasier devant l'œuvre. Et puis il y a aussi tout le côté référence à toute une culture sérielle qui aurait précédé, et évidemment qui fait appel aussi au fait que on a affaire à un public cultivé qui connaît ses classiques, quoi, quelque part. Mmh. Donc c'est dans ces deux éléments là que les artistes vont se retrouver. Ce qui explique évidemment que on en arrive à une période dans laquelle dans les séries on est dans le règne des noms des showrunners, hein. Alors parfois ce sont les showrunners, mais parfois même ce sont les noms soit d'un producteur, hein, évidemment quand c'est produit par Spielberg, mais on le précise toujours, soit parfois d'un réalisateur, hein, le fait que ça a été le même réalisateur pour la saison 1 de True Detective du début jusqu'à la fin, mais on n'arrête pas de nous le rappeler aussi, ce genre de choses là, hein. Donc on est dans l'idée que c'est vraiment l'artiste quel qu'il soit qu'on va mettre en avant. Voilà, on va peut-être s'arrêter là pour le moment, pour continuer après la musique, si tu veux bien. La musique, c'est Nolita Fairy Tales de Vanessa Carlton, entendue dans Gossip Girls.
La suite de Série Folie, c'est maintenant. Nous allons continuer à extrapoler autour du sujet du jour, les séries à voix, n'est-ce pas, Aurore ?
Oui. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a raconté ? Je résume rapidement. J'ai simplement dit que, contrairement à une période où on pourrait dire que l'objectif des personnes qui réalisaient, qui créaient des séries, c'était de s'effacer totalement pour qu'on ne voit que l'histoire qu'on est en train de nous raconter et qu'on peut observer depuis déjà un certain temps, que la tendance pour le moment est en train de s'inverser. Alors c'est peut-être pas non plus... c'est concomitant au minimum, qui de l'œuf ou de la poule, c'est toujours un peu la question, mais évidemment c'est concomitant au fait que les séries sont de plus en plus reconnues comme légitimes dans le champ artistique. Mais donc ici, on va avoir une tendance de plus en plus forte à ce que l'artiste se voit. Que ce soit à travers son travail de mise en scène, que ce soit à travers le travail scénaristique, que ce soit à travers toutes les références et les clins d'œil qu'il peut faire à son public. Il y a évidemment énormément de manières différentes de faire voir que, coucou, il y a quelqu'un à la manette derrière le truc. Donc, on est dans la période du showrunner roi, entre guillemets, même si, comme je l'ai dit aussi, c'est pas toujours forcément le showrunner, mais en tout cas, on essaie toujours d'avoir un nom à mettre
en avant
pour dire qu'on a un vrai artiste derrière cette œuvre-là. Quoi qu'il en soit, c'est pas pour autant qu'on arrive toujours à avoir des œuvres qui ont une âme qui ont une voix. C'est une expression que j'ai cru entendre ici ou là, l'idée que certaines séries auraient une voix et d'autres pas. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire finalement, une série qui a une voix? C'est une série qui dit quelque chose, j'imagine. Donc, parce que elle tient un propos particulier, soit parce qu'elle porte un univers riche et original, soit parce que on sent derrière une personnalité, une sensibilité particulière qu'on ne retrouverait pas ailleurs. Et donc, de plus en plus, la tentation est grande d'identifier la série à son créateur, puisqu'on va estimer que c'est pas l'œuvre en elle-même qui est sensible, c'est pas l'œuvre en elle-même qui est originale, enfin qui porte un univers ou quoi, c'est parce que le créateur à l'origine est une personnalité sensible, originale, etc., que il va réussir à transmettre ça à travers son œuvre. Donc il y a l'idée finalement que la série est un art parce qu'elle est originale, ou est originale parce qu'elle est un art. Enfin, tout ça se mélange un petit peu. Pourquoi ? Mais aussi parce que ça permet de totalement se différencier d'autres choses, qui est quelque part ce que tout le monde essaie d'éviter à tout prix, autant les créateurs que les producteurs que les téléspectateurs. C'est le produit industriel de masse, qui lui, évidemment, serait sans âme et sans voix. Tu l'imagines bien.
Oui, oui. Mais de fait, il ne suffit pas pour même les grands créateurs de séries de maîtriser les techniques mises en avant et disponibles maintenant pour faire de beaux effets spéciaux, de beaux plans séquences et tout. Il faut plus que ça.
Oui, 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 bien sûr, ça ne suffit pas. Donc, il y a vraiment un besoin, quelque part, de l'industrie, justement, d'aller pomper du côté des artistes toute la légitimité créative dont il manque énormément, puisqu'il s'agit d'une industrie du divertissement. Et donc, c'est tout le travail qu'ils font, puisqu'il y a cet appel paradoxal à de la créativité dans ce qui est le moins créatif, une industrie de masse. Eh bien, on va avoir un grand enjeu ici pour... pour l'ensemble du secteur de s'approprier la créativité des artistes pour donner de l'âme à leur produit. Donc le produit va se retrouver dans une situation assez paradoxale, puisque d'un côté, il va se mettre au service d'une sorte de monopole, d'une classe dominante, entre guillemets, et puis en même temps, la classe dominante à elle toute seule n'arriverait pas à imposer ses produits purement et simplement. Elle aurait besoin d'un peu de dissidence pour lui donner de l'âme. Et donc, on a un mélange comme ça perpétuel dans le secteur du divertissement entre ces deux éléments-là. Du coup, on peut pas vraiment dire de manière définitive que la série serait un art entièrement au service d'une idéologie dominante. Hein, je disais, ben finalement, les artistes, à partir du moment où ils dépendent d'une classe pour survivre, ont dû se plier à ça. Dans ce cas-ci, étant donné que, évidemment, ils doivent se mettre au service de l'industrie, mais ultimement, l'industrie, elle doit plaire au public, eh bien, on va avoir un va-et-vient comme ça entre une idéologie, en effet, dominante à laquelle il faut plaire, mais en même temps, il faut toujours permettre une forme de dissidence à l'intérieur de tout ça. Donc, c'est une place assez particulière, je crois, que les séries, comme beaucoup d'autres arts aujourd'hui, je sais plus quel est le début de ma phrase, mais c'est à une place particulière que se retrouve l'art aujourd'hui, puisque il y a à la fois de la part de l'industrie une appropriation et une mise au pas d'une certaine forme de subversion, quoi. Donc c'est aussi intéressant de constater ça. Donc finalement, les séries porteuses d'une voix, elles vont surtout, je crois, se définir en opposition à celles qui n'en auraient pas. Hein. Et les séries qui seraient sans voix, ce sont justement celles dont on voit trop. Il est trop visible que ce sont simplement des produits industriels. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elles suivent une même formule encore et toujours. Par exemple, aussi, on va y retrouver des défauts où, au niveau scénaristique, ça n'a pas d'âme, c'est bancal, on n'a pas l'impression d'être emporté dans un univers qui aurait véritablement de la matière, de la consistance. Même chose pour les personnages, hein, et on n'arrive pas vraiment à leur donner chair et du coup tout tombe en morceaux entre nos mains. Et puis au niveau de la réalisation aussi, il peut y avoir des éléments qui manquent et qui font que finalement on a affaire à quelque chose d'insipide, incolore, inodore et on se détourne assez rapidement. Par contre, du coup, les séries qui ont une voix, ce sont les séries qui vont nous proposer quoi ? Ben, ce sont des séries qui vont nous proposer soit un message particulier, un propos. On a l'impression d'avoir une personne qui est en train de nous parler de ce qu'elle pense, elle. Hein, et donc il y a une relation aussi de personne à personne qu'on a l'impression d'instaurer avec le créateur de la série, même si en réalité tout ça est évidemment toujours un peu illusoire, vu que derrière la série il y a beaucoup plus de gens qu'on ne l'imagine toujours. Ça peut être aussi une ambiance générale dans laquelle on se laisse totalement plonger. Et oui, cette série nous semble avoir une âme parce que elle arrive à nous envoûter totalement. Ou bien alors, ça peut être aussi au niveau de la forme où on voit que il y a une vraie originalité, une vraie créativité derrière le travail qui nous est proposé, quoi.
Bien.
Voilà.
Voilà.
On passe à la musique ?
Ah, allez, je veux bien.
Alors, la musique, cette fois-ci, il s'agit de Still My Sunshine de Len. On dit Len ou L-L-E-N ?
Ouais, on va dire Len. Hein.
Ok, qu'on a entendu dans South Park.
I was lying on the across the street. L-A-T-E-R, that way. My sticky puns really make his jaws out of big, that's the rippy treats.
Dernière ligne droite de cet épisode de Série Folie. Dernière partie avec Aurore, les séries à voir. Que veux-tu nous expliquer maintenant, nous donner peut-être des exemples?
Ben oui, c'est ce qu'on va essayer de faire parce que malgré tout, on a beaucoup théorisé là et on n'a pas encore donné grand-chose de concret à se mettre sous la dent. Donc, quels sont les exemples auxquels on peut penser et surtout, ben, finalement, ces exemples-là peut-être vont nous permettre de déterminer quelques catégories particulières, évidemment.
Allons-y, en rajoutons une couche.
Mais oui. Alors, quelles sont les séries, surtout les points sur lesquels on va pouvoir être suffisamment interpellé pour se dire, tiens, ici, j'ai une série qui est en train de me proposer quelque chose de vraiment, vraiment particulier, de vraiment unique. Y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent jouer. Évidemment, un des éléments qui peut paraître le plus évident, mais ce serait le fait d'avoir certaines séries qui sont très très personnelles, voire parfois totalement autobiographique. Et donc forcément, dans ce cas-là, quand c'est bien fait en tout cas, quand c'est un minimum en tout cas, ça semble honnête et authentique, eh bien on a vraiment l'impression d'avoir, de suivre la voie de quelqu'un à travers ce qu'il nous raconte. Ce qui, au niveau des genres, va beaucoup être privilégié dans le format dramedy, par exemple, dans lequel on va retrouver énormément ce modèle-là de la série un peu autobiographique. Je peux penser, par exemple, à une série comme Girls ou Master of None, mais chacun peut avoir ses préférés et d'un moment à l'autre. D'ailleurs, ça peut changer aussi. J'avais noté Lady Dynamite aussi, qui pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Mais quand je dis ça, finalement, il y a aussi d'autres séries qui semblent très très personnelles également. Peut-être aussi parce que quand on a l'occasion d'entendre les témoignages, la voix des personnes qui participent à la création de la série, on se dit ah oui, c'est vraiment elles ou c'est vraiment eux qui sont derrière et ça se sent. Je pense à une série par exemple comme Crazy Ex-Girlfriend, dans laquelle, oui, on a l'impression que cette série-là, c'est en grande partie, au minimum, Rachel Bloom dans toute sa grandeur. Et donc, ça aussi, c'est quand même une série qui semble très personnelle à ce niveau-là, même si, dans ce cas-là, c'est beaucoup moins autobiographique, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi certaines séries qui, peut-être, seront moins autobiographiques, mais qui, par contre, vont, à travers le propos politique ou social ou que sais-je qu'elle essaie de porter, semble aussi très personnel, parce que justement tenir ce genre d'idéologie, enfin de point de vue là sur la société, ben ça exige d'avoir une personne derrière tout ça et pas uniquement une industrie. Évidemment, on va penser en priorité aux séries de Larry David ou bien aux séries de Aaron Sorkin, par exemple.
Par exemple, oui.
Voilà, dans laquelle on sent vraiment très très fort leur point de vue politique réapparaître dans l'entièreté de leur œuvre. C'est aussi, d'ailleurs, ce genre de créateurs-là vont aussi pouvoir être suivis sur la longueur, c'est-à-dire sur leurs différentes séries où on va retrouver la même voix, et ce qui va évidemment renforcer l'idée qu'on a affaire à des séries qui portent une voix particulière. Cette idée-là, qu'il y a certains créateurs qui portent une voix véritablement particulière, on va aussi la retrouver pour d'autres éléments qui sont plus là scénaristique ou bien au niveau des personnages, en tout cas au niveau du monde qui est mis en place. Il y a une volonté d'apporter quelque chose de vraiment différent, ou bien on a affaire à des personnages qui semblent tous un petit peu, si pas se ressembler, en tout cas porter un certain nombre de valeurs en commun, etc. Et là aussi, on va avoir l'impression d'avoir comme ça une voix commune qui transparaît à travers les différentes œuvres de ces créateurs-là. Je pense par exemple à des créateurs comme David Milch, comme à nouveau Aaron Sorkin évidemment, ou Larry David, mais Brian Fuller aussi, Gilligan, forcément Vince Gilligan, ou bien évidemment dernièrement aussi Noah Hawley, que je ne voudrais pas oublier. Donc voilà, on peut aussi, à travers ces différents exemples-là, retrouver l'idée d'une voix. Alors, les deux derniers éléments auxquels j'ai pensé aussi, c'est qu'il y a certaines séries, par leur originalité, par le fait qu'elles sont quasiment vraiment uniques dans leur domaine, vont aussi apporter un vent de fraîcheur qui leur donne une voix particulière. Je pense à une série comme Jane the Virgin, par exemple, qui a vraiment une place que je trouve un peu inclassable dans le paysage pour le moment, ou bien qui... peut-être au niveau des histoires ou au niveau des personnages n'a rien de bien nouveau, mais qui, par les propositions esthétiques qu'il met en avant, peut aussi sembler porter quelque chose d'un petit peu différent, comme c'est le cas pour moi, en tout cas, de Gotham. Voilà.
Voilà.
Alors,
dernier petit
donc,
point.
De tous ces exemples que je viens de donner, évidemment, on pourrait en donner beaucoup d'autres, mais on est toujours limité. J'en tirerai trois catégories particulières, finalement. La première catégorie, c'est au niveau de l'imaginaire, où on va pouvoir avoir des séries qui nous apportent un imaginaire vraiment unique. Et dans ce cas-là, on peut parler de séries qui ont une voix. Il y a aussi au niveau du point de vue, évidemment, politique ou social ou que sais-je. Mmh. Et puis au niveau de l'expérience qui est partagée, plus au niveau des sentiments. Voilà.
Voilà.
Cette fois-ci, c'est bon.
Cette fois-ci, c'est bon. Le point final est mis au bout de la phrase. On vous rappelle, cette émission sera podcastée et disponible sur Internet via les réseaux sociaux et notamment également le site internet www.sarifolie.be. On va se quitter en musique, évidemment. Or, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas un petit peu musicalement.
Oui, on va s'écouter Ghost Town de The Specials, entendu dans Being Human UK.
UK. Ouais. Merci une nouvelle fois pour ton partage d'expérience et de savoir par rapport aux séries télévisées. Et on se retrouve la semaine prochaine, si tu le veux bien.
À la semaine prochaine.
Get it.